Et c'est ça le commencement de la vie avec Dieu, c'est la conversion. Entrer par la porte étroite. Et comme c'est beau de l'avoir fait un jour, je l'ai fait à l'âge de 13 ans. Quand je pense à ma famille, ce que nous étions, je vous en parlais. Vous allez vous dire peut-être, oui, vous avez toujours été comme ça, des gens très religieux chez vous. Ce n'est pas le cas. Nous sommes des gens qui viennent de Genova. Gênes. Nous étions des gens très, très nobles. Da Pozzo, du Puy, et des gens très riches, les aïeux. Ils avaient une flotte, et ils se sont alliés avec les Anglais, avec Napoléon contre les Anglais en secret, et ont été détruits en mer. Ils ont perdu leur fortune, ont dû partir à l'étranger, s'exiler, les Da Pozzo. Et c'était bien, sans qu'on n'aurait jamais connu Christ. Ils sont partis de Gênes, nos aïeux, avec deux sacs. C'est tout ce qui restait de la fortune. Un sac de péché et un sac de haine. Tout ce qui restait. Et ils ont dit, on n'ira plus jamais à Genova. Fini. Nous partons. Et là-bas, à l'étranger, on a vécu sans Dieu. Je me souviens très bien, à l'âge de 4 ans, quand on avait nos réunions de famille. Alors, nous avions une grand-maman qui savait très bien faire des raviolis. Et alors elle venait nous voir le samedi, le dimanche, le samedi, déjà le matin, elle disait à tous les parents, les oncles, les tantes, venez chez moi demain, on fait des bons raviolis. Alors nous étions amateurs de raviolis, toute la bande d'apôtres courait chez la grand-mère pour les raviolis. Alors on mangeait beaucoup de raviolis et on buvait beaucoup d'alcool, malheureusement. Et alors avec cet alcool, ça donnait une bonne atmosphère joyeuse, comme le monde, sans le bonheur. Et on commence à jouer aux cartes. Je m'en souviens très bien. Ensuite, ils commencent à se disputer. Et c'est là que j'ai vu la première fois les premières soucoupes volantes. Pas celles des Américains ou des Russes, celles du grand-papa. Quand mon grand-papa était en colère, il jetait toute la vaisselle par la fenêtre. Et lendemain, il fallait faire avec le balai, tout se mettre ça en tas. Épouvantable. Une vie sans Dieu. Et après, ils se chamaillaient. Et ensuite, tous les apôtres boudaient. Chez nous, on était des spécialistes boudeurs. On ne se saluait plus dans la rue, toute la semaine. Mais alors le samedi, elle revenait, la grand-maman, puis elle disait, « Venez chez moi demain, je fais de mon ravioli. » Alors c'était la réconciliation des raviolis. La réconciliation. On repartait, de nouveau, les assiettes volantes, et puis la bagarre. Voilà tout le bonheur qu'on avait. Et ma chère maman cherchait sa voix. Elle se disait, ma chère maman, « Mais pourtant, il doit y avoir quelque chose. Il y a pourtant un Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a rien d'autre que ça dans cette vie ?» Et elle cherchait. Et un jour, elle trouva, comment ça s'est passé? Elle trouva dans la boîte aux lettres une feuille de papier. Les feuilles de papier, ça a des grandes importances. Par exemple, s'il y avait un billet de 1000 francs dans votre boîte aux lettres demain matin, vous le sauriez, hein? Oui, il n'y en a pas souvent, sûrement, à cause de non plus. Mais c'était davantage qu'un billet de 1000 francs, c'était une invitation pour aller écouter une évangélisation. Et nous, on a pensé, qu'est-ce que c'est que ça, qu'évangélisation? Qu'est-ce que ça veut dire? On a même pensé que nous étions les seuls qui avaient été invités, tout heureux, tout fiers. Et nous sommes allés à cette réunion d'évangélisation, ma chère maman, mon frère André et moi. Et pour la première fois, nous avons entendu la parole de Dieu. Il y avait un pasteur. Son nom est un nom béni et respecté. Et chaque fois que je le prononce, ce nom, ce soir aussi, j'ai un grand respect. C'est le motif que je suis là ce soir, ce pasteur-là. Son nom était Alexandre Morel, un homme de Dieu. Sur la chair, il a dit ceci. Il a commencé par ceci. Convertissez-vous, entrez par la porte étroite. Et nous avons regardé dans cette église où était la porte étroite, nous tous. Il n'y en avait pas. On n'a pas compris. Et pour terminer, ce pasteur a dit, après sa prédication, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et qu'arrivera-t-il? Un miracle. Ma chère maman, qui cherchait sa voie à trouver, elle est restée auprès du pasteur, a eu un entretien et s'est convertie. Elle a été obéissante à la parole de Dieu. Et elle a trouvé la paix avec son sauveur. Elle est partie avec la paix dans son cœur de cet entretien. Elle savait, mes péchés sont pardonnés et mon nom est écrit dans le livre de vie. Cher ami, as-tu aussi cette assurance? Si oui, tu es heureux, sans quoi non? Oh, impossible! Si on n'a pas dans son cœur l'assurance du pardon des péchés de la vie éternelle, on n'est pas un homme heureux. Impossible. Et alors là, le lendemain matin de bonne heure, à 6 heures à table, comme d'habitude, toute la famille, ma mère a dit, halt, Halt. Puis il a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, chez nous, avant de manger, on fait la prière. La prière? Mais qui va faire la prière? Il n'y a pas de pasteur qu'on a pensé, nous. La prière. Et pour la première fois, maman a prié avec nous à table. Et nous, les enfants, nous avons tous pleuré, tellement nous étions émus. C'est la première fois qu'on priait chez nous. Mais mon père s'est mis en colère. Nous, on a pensé, qu'est-ce qu'elle est devenue intelligente? Elle s'est déjà priée. Comment qu'elle a appris ça? La mère, elle s'est déjà priée. Ouh, ça a changé. Et le père s'est mis en colère. Et puis il a dit, Anna, maman, chez nous, pas de prière, je le défends. Et ma mère a répondu, Ernest, chez nous, on fera la prière, tous les jours à table, que tu le veuilles ou non. Elle l'a dit. Il est dit dans la Bible, femme, soyez soumis à vos maris, mais dans le Seigneur, pas dans la stupidité. Dans le Seigneur. Et elle a prié malgré l'interdiction. Et nous allions à la réunion le mercredi, et nous allions au culte, et le père nous a défendu d'aller au culte, défendu d'aller à la réunion. Et nous allions quand même. On désobéissait au père d'apôtre chez nous. Et alors, quand on rentrait à la maison, le soir, après la réunion, le mercredi, chez nous, la porte était fermée à clé. Il fallait qu'on couche dehors. Ah, vous voulez écouter Morel? Ben, vous coucherez dehors. Le père d'apôtre voulait nous dresser. Alors, couchez dehors. Et nous sommes devenus très intelligents. Vous savez, quand on va écouter la parole de Dieu, on devient intelligent. C'est dit dans la Bible. Parce que quand on partait à la réunion, on prenait les couvertures de laine à l'église avec nous. Et le lendemain matin, nous étions au bas de l'escalier. Et le père allait travailler. On disait à la mère en haut, regarde, maman, il part. Il est à la fabrique. Il travaillait à la fabrique à cette époque-là. Et à midi, il rentrait. Et j'avais 7 ans à cette époque-là. Et je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Il rentre à la maison, on a couché dehors. Est-ce qu'il va encore bouder, la mère d'Apozzo? C'était fini avec les boudés. Toute chose était de nouvelle. Ma mère alla à sa rencontre, oui, vers la porte. Et j'observais, moi, étant enfant, ce qui allait se passer. Elle l'embrassait. Elle lui disait très gentiment, « Bonjour Ernest, viens te mettre à table, tu es fatigué, tu as bien travaillé. » Et tu sais, Ernest, disait-elle, « j'ai fait quelque chose de bon à dîner. » Qu'était-ce? Des raviolis. C'était la vengeance de la mère d'Apozzo, le plat préféré du père d'Apozzo, des raviolis, tous les jeudis. Alors le père d'Apozzo, il a pensé, « j'ai pas de succès. » Ils y vont quand même chez Smorel. « Ah, j'ai pas de succès. » Et un jour, un dimanche, il a voulu nous prouver qu'il était aussi un chrétien. Il s'est souvenu qu'il y avait 22 ans qu'il avait été pour la dernière fois à l'église catholique. Il a pensé, je suis aussi un chrétien après tout. 22 ans, j'allais aussi à l'église. Oui, et pour nous prouver qu'il était un chrétien, il est parti à l'église catholique en disant, je vais vous montrer à ma femme que je suis aussi chrétien qu'elle. Et là, devant l'église catholique, on a rencontré un soldat de l'armée du salut. Et que ce soldat de l'armée du salut... Il a dit à mon père ceci, Ernest, viens aussi écouter le pasteur Morel, fais comme ta femme, tu deviendras heureux. Et mon père s'est mis en colère, et là, il a frappé 2 fois sur son visage de ce salutiste. Il est tombé à plat ventre sur la route. Il s'est relevé de tout ça, son uniforme. Et il a dit à mon père, je te remercie, Ernest, que Dieu te bénisse, Ernest. Adieu, Ernest. Il n'a pas dit, je vais chez le garçon en pète, tu pourras payer. Non. Aimez vos ennemis. Que fallait-il que mon père se convertisse? Il s'est converti, mon père. Que fallait-il? Dieu a des moyens. Qu'on le veuille ou pas. Parce que nous prions. Un jour, il a dit à ma mère, si tu vas écouter le pasteur Morel ce soir, quand tu rentres, je te tue. Vous savez, les Génois, ils sont violents. Et t'as pas converti. Après, ça change. Et la mère nous a répondu, il a répondu la mère, venez enfants, on va à l'église. On est parti. C'est bien allé, mais pour rentrer, ce n'était pas la même histoire. Et je me souviens toujours dans cette cour où nous sommes arrivés avec la maman à 10 heures du soir. Il y avait de la lumière en haut. La porte était ouverte ce soir-là. Il nous attendait, le père d'Apozzo. Et puis on s'est mis à genoux. La mère a dit, enfant, mettons-nous à genoux et prions le Seigneur. Puis on a prié dans la cour à genoux. Et puis après, elle a chanté un cantique avec nous, ma mère. Dis tout à Jésus, combien son accueil est doux. Il peut t'entendre, il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout, ce cantique. Et après, on est monté l'escalier, la mère en haut et nous les gosses par derrière. Et là-haut, le père d'Apozzo avec un grand bâton à la main. Eh bien, chers amis, il n'a pas pu frapper. Dieu l'en a empêché. Impossible. Que fallait-il que mon père se calme et vienne à Jésus? Il a fallu que mon frère André meure. Et mon frère André, il avait 9 ans. Et à 9 ans, il était un enfant de Dieu. Il est régénéré par la puissance de Dieu à 9 ans, c'est possible. Il a l'assurance du péché, pardon des péchés, la vie éternelle. Un enfant de Dieu à 9 ans. Tomba malade 3 jours de temps. Le 3e jour, il était mourant. On était tous dans sa chambre, je m'en souviens très bien. Il nous a dit, de sa petite voix, il ne nous voyait plus, il ne nous reconnaissait plus. Il nous a dit comme ça, mon frère, vous êtes tous là? Oui, qu'on a répondu. Et il a dit ensuite, et le père, il est là aussi, le papa? On a dit oui, il est là, le papa. Il a dit comme ça, bien, je m'en vais bientôt vers Jésus, mon sauveur, et je suis heureux de voir bientôt mon sauveur face à face. Tellement heureux de le voir. Chère âme, peux-tu en dire autant? Tu devais partir cette nuit. Je suis parti la nuit passée à 2h du matin de Lausanne pour Saint-Gall pour assister à un homme qui était mourant. Et quand je suis arrivé là-bas, cet Italien m'a dit, je suis prêt à partir dans la gloire de mon sauveur. Je suis prêt, cher frère. Il m'a sauvé. Ça, c'est la victoire. C'est sa toute puissance. Et il a dit, et avant de partir vers Jésus, j'aimerais dire quelque chose à papa. Il a dit, papa, je te vois pas, mais je te dis ceci. Viens à Jésus comme la maman, convertis-toi, change de vie. Puis il a dit, maman, bon courage, il viendra. Qu'il a dit. Puis il a dit, avant de partir vers Jésus, j'aimerais chanter un cantique. Avec les dernières forces qui lui restaient, il a dit ceci. Il a chanté ce cantique comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit. 3 strophes, il était exténué. Il s'est passé quelques instants, quelques minutes, et j'ai vu mon frère qui a fait ceci. Il a dit, « Oh Seigneur, je te vois, je viens à toi. » Il est parti dans la gloire, il était prêt. « Et toi, chère âme, es-tu prête aussi ?» Le dimanche suivant, nous sommes partis au cimetière, et l'après-midi, mon père dit à ma mère, « Alors Anna, vous y allez ce soir, là-haut » Qu'est-ce que c'était là-haut ? Ben, c'était l'église. Et maman a répondu, oui, nous y allons ce soir, papa. Et papa a dit, Anna, ce soir, je vous accompagne. Il est venu avec nous, la première fois, mon père. Et là, devant la chapelle, il était près de nous, puis il nous a dit comme ça, oh, je ne suis pas si mauvais que ça. Si tout le monde était comme moi, on n'aurait pas besoin de garde-champêtre ni de police. T'es un brave. Il a même battu sa femme, mais il était brave. Oh, je n'ai ni tué ni volé. Mais ensuite, il est dans la chapelle avec nous, le père d'Apozzo. Et Morel était là. Et Morel a parlé, le pasteur. C'était tellement prenant. Il a dit ceci. Aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Aujourd'hui, de nos jours, chacun veut être un chrétien, naturellement. Personne ne veut être un païen. Ah non. Il a dit ceci. Que fait un chrétien? Il a dit ceci. Un chrétien lit sa Bible. Oh, le père d'Apozzo commence à se cacher derrière ces gros dos de ces messieurs. Il est plus brave que ça. Puis il a dit, et que fait un chrétien? Un chrétien prie. Et mon père était déjà liquidé. C'était fini. Le tout brave était déjà liquidé. Et pour terminer, Morel a dit dans cette assemblée, dans cette église, il a dit, y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un ce soir parmi nous? Tout était calme. Église bondée. Et le père d'Apozzo s'est levé et l'a dit, moi, monsieur le pasteur, pour tout le monde. Et ça a encouragé bien des hommes. Avec mon père, sont encore levés 8 messieurs, 9 ensemble, qui se sont convertis à Christ. Et chez nous, ça a changé dans la famille. Toutes choses sont devenues nouvelles par la grâce de Dieu.
Mon grand-père, le père de mon père, avait beaucoup de dettes qu'il avait fait avec de l'alcool. Énormément de dettes. Et mon père savait très bien, s'il veut amener son père au Seigneur, il ne faut pas lui dire tous les jours, « Faut te convertir, papa. Faut te convertir, papa. Faut te convertir, papa. » Ça n'a rien marché, ça. Mais mon père savait, si je paye les dettes de mon père, eh bien, il sera touché. Et c'est pourquoi il a pris, à cette époque-là, 30 000 francs de dettes de cette époque-là, vous savez. C'était des francs or encore, à ce moment-là, quand il était petit. 30 000 mon grand-papa, quand il avait bu, les gens lui faisaient signer des reconnaissances de dette qu'il n'avait jamais fait. 30 000 francs. Et c'est pourquoi on est venu en France, travailler à tâche à ce moment-là. Attendu maître, on bossait du matin au soir pour payer l'aide du grand-père. Et on les a tous payés. On les a tous payés. Mais un jour, alors que j'étais petit encore, et des nouveaux convertis étaient mon papa, était parti travailler de nouveau en France, en Champagne, qui nous a dit, je vous enverrai ma première paye. N'ayez pas peur, ça va venir. Puis cette paye n'arrivait pas. Il y a des difficultés avec le change entre la France et la Suisse, pas de paye. Puis un soir, ma maman m'a dit, Erino, il me manque 20 centimes pour acheter un kilo de pain. Prends-en seulement une livre. On était 5 petits gamins à la maison. Une livre. Puis je suis parti vers le village, et là, en route, j'ai dit, je vais faire la prière. T'es un gamin. D'abord, j'ai regardé à gauche. Et à droite, il y avait personne. Puis j'ai fait ma prière à peu près comme ça. Seigneur Jésus, je lui ai dit, moi, je ne suis pas ton enfant. Je le savais, à 8 ans, que je n'étais pas son enfant. Mon petit cœur n'était plus si beau que ça, et si propre. Alors, c'est pourquoi je dis, Seigneur, je ne suis pas ton enfant, mais Seigneur, ma maman, c'est ton enfant. Puis il manque 20 centimes. T'es tellement puissant, Seigneur, tout puissant, t'es riche, tout appartient. Si 20 centimes, tu peux me les faire trouver. Il y avait quelques cailloux au bord de la route, et j'ai dit, Seigneur, t'es sous cette pierre-là la plus grande. Puis j'ai versé cette pierre, je l'ai soulevée, et sous la pierre, il y avait 20 centimes. Chers amis, quand j'ai vu cette pièce de 20 centimes, j'ai eu une joie débordante. Mais tout à coup, j'ai eu peur. Pourquoi? Pour la première fois, étant enfant, j'ai vu la grandeur et la sainteté de Dieu. Et j'ai pensé, si Dieu voit les besoins de ma mère jusqu'à 20 centimes, il voit aussi dans mon cœur. Et là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, étant enfant. Puis j'ai acheté mon kilo de pain, je me mets à la maison avec ce pain, j'irai tout raconter à la maman. Et ma maman m'a dit, Erino, un jour tu seras évangéliste. Je dis, non, maman, footballeur, pas évangéliste. Il y a de grandes qualités de footballeur étant gosse. On me le disait, on me disait même tu seras une fois internationale. Puis je le croyais. Alors j'ai dit, maman, il ne faut pas prier que je devienne évangéliste. Surtout prie pas. Je savais si la maman prie, finalement il faut que je devienne évangéliste, c'est épouvantable. Puis la maman a quand même prié. Puis je suis quand même devenu un évangéliste. C'est elle qui a gagné. On peut vaincre par la prière. Les mamans ont tellement à faire pour leurs enfants, à prier pour eux. Il ne faut jamais se décourager. Quand je pense à mon frère Marc, nous sommes 5 frères, je suis l'aîné, c'est mon frère Marc qui ne veut jamais se convertir. Et il nous a fait de la misère à nous qui étaient convertis. Quand on allait à la réunion des fois, quand on rentrait à la maison, il prenait la Bible, puis la mettait dans le fourneau, l'affichait au feu. Puis il disait, vous n'osez pas vous mettre en colère, vous êtes sauvés. Il faut la vallée. La vallée, c'était dur des fois. Alors on se taisait. Le silence est dehors. Puis on priait. Mais il n'y avait pas de progrès dans nos prières. Il a fallu attendre des années. Et mon frère est devenu un grand musicien, d'accordéoniste. Puis il était aussi technicien, vous comprenez. Il était quelqu'un. On l'entendait même à la radio. À Radio Cité. Marco. Mon frère. Mais il n'était pas heureux, il allait jouer sur les balles pour se passer le temps. Il n'est pas besoin de souver. Puis l'accordéon, de la trompette, l'accordéon. Puis voilà qu'il rentrait le matin, des fois vers 4 h du matin, puis nous on était au lit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il renversait le lit avec nous dedans. Il nous renversait. Puis il disait, vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère, vous êtes sauvés. Puis délivrez de la colère, vous. Avalez. Mais la maman priait, la maman d'Aposo. Et un soir, mon frère rentrait à la maison. Vers 2 h du matin, une nuit, là près de Paris, avec un vélo, à cette époque-là, on n'est pas des voitures comme aujourd'hui. Et puis sur son dos, il avait sa trompette, derrière l'accordéon. Et là, dans ce bois, il a été surpris par la beauté du ciel. Il y avait tellement un beau ciel plein d'étoiles. Et mon frère aimait la nature. Il a tellement été ému de voir ce beau ciel dans cette forêt. Le ciel n'est jamais plus beau que dans une forêt, quand on regarde en haut. Il faut faire l'expérience. Il a dû descendre de sa bécane et puis il a parlé avec Dieu, le technicien, l'orgueilleux. Il a dit à peu près ceci, « Seigneur, tu es un grand Dieu et moi je suis un pauvre type. » Il a dit, « Seigneur, j'ai même frappé ma mère à cause de l'alcool. Quel homme je suis devenu. Il faut que ça change, Seigneur. Et le technicien pleurait. Personne ne le voyait, il pouvait bien pleurer dans le bois à 10h du matin. Et là, alors il a dit, Seigneur, change mon cœur, je t'en supplie. Et il a pris sa trompette, et puis il a regardé vers le ciel, puis il a joué pour ma mère, qui était à pied de là, une heure, pour un petit peu se consoler, il a voulu chanter, jouer trois fois le cantique que ma mère aimait tant. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Il a joué trois fois pour ma mère. Quand il a terminé la troisième fois, il a entendu un petit bruit, il a regardé, près de lui, environ 3 mètres, un homme à genoux sanglotait sur ce chemin. Et cet homme avait dans la main un nœud coulant. On sait ce que ça représente dans la nuit, un nœud coulant dans une forêt. Et cet homme en sanglotant, il a dit, j'étais en train de me prendre la vie en chaîne pas loin d'ici, quand j'ai entendu ce que vous avez joué. Et ce que vous avez joué, ma mère le chantait dans le temps, je m'en souviens, elle est morte. Et moi, je suis un homme, il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus d'espoir. Puis il doit dire à mon frère, mais vous êtes un chrétien. Vous pouvez m'aider. Et mon frère, qui était pourtant baptisé comme enfant, qui a fait sa première communion, il a dit, non, je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. Malgré son baptême et sa communion, je ne suis pas un chrétien, qu'il a dit, je suis un homme comme vous. On est tous les deux pareils. Mais je sais où aller. Venez que moi. Puis ils sont partis, mon frangin avec sa bécane et puis sa trompette, l'autre avec son nez coulant la main. Puis ils sont arrivés vers 3h du matin devant la maison que nous avons préparée maintenant. Et vers 3h du matin, il y a encore de la lumière dans la chambre des parents. À 3h du matin, ils sont allés frapper, entrer, qu'est-ce qu'ils ont vu? Mon père et ma mère à genoux qui priaient pour mon frère, ils n'étaient pas partis se coucher. Toute la nuit en angoisse pour lui. Et ces deux jeunes gens se sont mis à genoux à côté des parents et se sont convertis. Mais ça demandait des années. Mais il a fallu que maman rende un bon témoignage, qu'elle sache se taire, jamais rouspéter, jamais rien dire, tout encaisser. Et ça a vaincu mon frère. Que Dieu bénisse notre témoignage, que nous sachions prendre aussi une non-pointe, aimer leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne pas aimer sa propre vie, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut chaque jour. De sacrifice. Je trouverai une fois une réunion à Lausanne. Oui. Alors j'ai dû attendre assez longtemps là devant la salle, je me promener tel soir vers 7 heures. Et j'ai vu une petite fille, comme celle-là, qui partout cherchait quelque chose par terre. Et je dis, petite fille, qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, qu'elle me dit, j'ai perdu mon porte-monnaie. Puis je l'ai tout retrouvé. La police non plus. Le bureau des objets trouvés non plus. Puis je suis revenu. Mon papa m'a bien fessé, m'a bien battu, mon papa. C'est qu'on n'est pas riche chez nous. Puis je suis revenu voir. Puis j'ai dit, mais comment tu t'appelles? Ben Jeannette. Ah, Jeannette. Puis j'ai dit, Jeannette, est-ce que tu as prié le Seigneur? Oh oui, mais il ne m'entend pas. Mais si, non. Si, si, non, non. Si, si, non, non. Qu'est-ce qui s'était passé? Jeannette a prié, puis n'était encore pas exaucée. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut dire maintenant, Jeannette, il faut beaucoup, beaucoup prier. Monsieur, il faut prier, Jeannette. Rien de tout ça. Moi, dans ma poche, j'avais un billet de 50 francs de trop. Vous l'avez là, ce billet de 50 francs. Je pouvais bien le servir à la maison aussi. Mais je savais qu'il était là, et je savais que Dieu m'avait conduit vers Jeannette, un enfant de 7-8 ans. Est-ce qu'on veut donner de l'argent comme ça? Parce qu'on ose comme ça prendre cette responsabilité. J'ai dit, Jeannette, tu as prié et Dieu t'a exaucé, il m'a envoyé vers toi. Je suis évangéliste, tu sais ce que c'est? Oui, je vais à l'école du dimanche. Puis elle dit, eh bien Jeannette, parce que tu as prié, Dieu t'envoie. Maintenant, je voudrais te demander, comment que tu as dans ton porte-monnaie que tu as perdu? 50 francs, justement. Puis Jeannette, voilà les 50 francs que Dieu t'envoie. Et voici. Elle s'est mise à pleurer de joie. Oh, qui seront contents à la maison. Oui. C'est pas le temps de dire, il faut beaucoup prier. Quand on peut aider soi-même. Oui. Et évidemment, le lendemain, je suis rentré à la maison. Je n'ai pas demandé où elle demeurait, rien du tout. Oui. Et je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré le matin à la maison, qu'est-ce qui me manquait dans mon portefeuille? Mes 50 balles me manquaient, bien sûr. Mais Il y a ma compagne qui m'attendait sur la route avec notre petite Irina sur les bras, la dernière. Puis je lui dis, comment que ça va Marguerite? De loin, elle s'appelle Marguerite ma femme. Comment que ça va? Elle m'a dit, ben ça va bien. Elle m'a dit, tu vois, à 7h30 hier au soir, il est venu un monsieur me voir avec une voiture, un monsieur que je ne connais pas. Puis il m'a dit, vous êtes Madame d'Apozzo? Oui, c'est moi. Je connais bien votre mari, qu'il a dit. Eh bien, il y a une demi-heure, il a fallu que je vienne vous voir. C'était plus fort que moi, puis j'ai dû venir vous voir. Puis cet homme, il a porté dans la maison chez nous, il a porté 2 sacs de pommes de terre. Un beau morceau de jambon, de paysan du bon. 30 œufs tout frais. Et puis, une enveloppe avec 50 francs dedans. À 7h30, comme moi aussi à Lausanne, au même instant. Dieu n'oublie rien. C'est pour ça, quand on fait quelque chose pour lui, il ne faut pas croire que Dieu l'oublie. Il n'oublie rien de tout, c'est donc pas des sacrifices, c'est une joie de servir le Seigneur. Car on sait qu'il tient compte de tout, même d'un verre d'eau dans la Bible. Que Dieu est bon. C'est pourquoi nous avons chacun notre devoir, d'une façon ou d'une autre, mais il y a une possibilité de victoire. Christ l'a accompli sur la croix de Golgotha, pas seulement le pardon des péchés, la paix, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, et Dieu nous l'a acquis en Jésus sur la croix. C'est merveilleux. Il n'est pas dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau jusqu'à l'année telle et telle, après c'était trop difficile. Il n'est pas dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau jusqu'au service militaire, au régiment, puis après c'était plus possible. Il n'est pas dit non plus, ils ont vaincu par le sang de l'agneau jusqu'à ce qu'ils se sont mariés, oui, puis après ils arrivent à la belle-mère, ça n'allait plus. On peut dans n'importe quelle circonstance, aujourd'hui encore, réaliser une belle victoire. Que Dieu nous soutienne et nous garde. Lui, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quand j'évangélisais, quand j'étais à Paris, j'étais jeune, je tenais l'école du dimanche. Il y a un petit garçon qui s'est converti, qui avait 8 ans, une véritable conversion. Puis il m'a dit, vous savez, j'aimerais bien avoir ma Bible à moi. Alors je lui ai donné une belle Bible à tranches dorées. Ah, ce petit Henri était heureux, il lisait sa Bible. C'était une nouvelle créature. À 8 ans, c'est pas trop jeune. Il n'y a pas d'âge pour la conversion. Je connais un petit garçon de Calabre qui s'est converti à 7 ans. Giuseppe. Et toute sa famille contre lui, le prêtre contre lui. Et le prêtre lui a dit, Giuseppe, si tu reviens à l'église, je te donne un vélo. C'est une fortune le vélo en Calabre pour un gamin. Et Giuseppe l'a refusé à 7 ans ce vélo. Toute sa famille contre. À 9 ans, Giuseppe, il venait à l'école du dimanche pour près de 200 enfants, il parlait comme un évangéliste à 9 ans. Puis il est devenu un évangéliste. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et le petit Henri était heureux. Il jouissait de son salut, de sa joie, de sa Bible. Puis un jour, il avait une maman qui était très bigote. Une vraie bigote. La maman de l'Henri. Puis voilà qu'un jour, un mercredi après-midi, il lisait sa Bible, ça a sonné. Et puis la maman a regardé par une petite fenêtre, puis elle a vu une visite inattendue et vraiment qui ne lui plaisait pas beaucoup. Une dame qui venait la voir, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Puis elle a dit, Henri, va dire que je ne suis pas là. Puis Henri a dit, mais maman, t'es là? Vas-y, ça coche dans le deux claques. Puis alors Henri est parti vers la porte, puis elle a dit, maman, est pas là? Puis cette dame a dit, oui, mais j'ai entendu parler dans la maison. Puis il a dit, c'était ma sœur. Un deuxième mensonge. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la joie de son salut, ce petit Henri, à cause de sa maman. À cause de sa maman. Il ne faut pas s'imaginer, les parents, on a des responsabilités. Il n'est plus venu à l'école du dimanche, il n'est plus venu à la réunion pendant 6 mois. 6 mois plus tard, on avait des réunions, puis pour la première fois, sa maman l'a accompagné. Il est venu. Puis elle s'est convertie. Puis elle a pu dire après à Henri, cette maman, Henri, tu peux me pardonner. Je suis évangéliste, moi. Je cherche à servir mon Dieu tant que je peux. Oui, je voudrais le servir encore mieux. Mais ça m'est déjà arrivé de dire à mon garçon, ou bien à un des nôtres, qui était petit, François, tu peux me pardonner. Oui. On rentre à la maison, on est à l'école, puis voilà qu'on a appris que notre François, il a dit, s'il a fait ça, quand il rentre à la maison, au lieu de l'interroger, on donne une bonne fessée. Puis après, c'est drôle, on apprend que ce n'était pas lui, c'était un autre. Est-ce qu'on peut dire maintenant, ben tant pis, c'est pas sûr, j'en peux rien. Non, c'est pas passé. Si on veut la joie et la communion avec son fils, son petit gamin, il faut savoir dire, François, ou bien Jean-Pierre, tu peux me pardonner? Et Dieu bénit ces choses-là. Et la joie revient. Et ce petit Henri a retrouvé sa joie, là-bas à Paris, la joie du salut. Et la maman a pu lui demander pardon. Bien, dans toutes les circonstances, réjouissons-nous. Une fois, je n'ai eu une réunion là-bas en Suisse. Et puis, pendant la réunion, ils m'ont peint mon vélo à neuf. Les ennemis. Ils n'ont pas mis de belles couleurs. C'était peint avec du fumier de poule. Tout du fumier de poule. Complètement couvert de fumier de poule. Puis tout à coup, je me suis dit, quand j'ai vu ce vélo, c'est le moment d'aller au garde-champ, et on a bientôt assez. Quand même, il faut de l'ordre dans le pays. Puis cette parole m'est venue à l'idée, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, puis j'ai dit de mettre dans la fontaine, une grande fontaine, ce vélo, en chantant, oui, tout dit qu'il est merveilleux, avec ce vélo dans la fontaine, puis il a bien été lavé. Mais, comme c'est beau, le Seigneur nous conduit. C'est pourquoi, laissons-nous exhorter, si nous voulons être des gens heureux dans ce monde, acceptons le salut. Tant qu'il est temps, je suis venu ici parmi vous et j'ai eu beaucoup de joie, chers amis. J'ai senti cette communion. Mais ces quelques réunions que nous avons eues ensemble se retrouveront un jour dans la gloire. Et les gens qui ont été appelés et qui n'auraient pas accepté l'appel du Seigneur en rendront, justement, des comptes devant Dieu. Dieu parle. Je me trouvais une fois dans mon jardin là-bas en Suisse, en train de travailler dans mon jardin, quand Dieu m'a révélé, c'est un mardi après-midi, qu'il fallait que je m'habille du dimanche. C'était l'Esprit de Dieu, je le savais. Et je suis parti m'habiller du dimanche sans savoir pourquoi. Ma compagne me dit, où tu vas? Je ne sais pas. J'ai eu ma cravate, le téléphone sonne, et très loin de chez moi, environ 200 km, une maman était au téléphone, une maman en angoisse. Il y a de nos jours beaucoup de mamans en angoisse, vous ne trouvez pas? Des mamans en angoisse, ça ne manque pas. Et cette maman me disait, ma fille qui a 18 ans, elle est mourante. Elle aimerait bien vous voir, vous confier quelque chose. Vous pourriez venir. Je dis, petite maman, je suis justement prêt. Puis j'ai juste eu le temps d'aller prendre le train. C'était Dieu qui a tout organisé. Puis je suis arrivé à la verte dans cette maison, la maman m'a conduit vers cette fille, une fille de 18 printemps, qui était mourante, la peine de respirer. En sueur. Et cette jeune fille me connaissait. Moi, je ne la connaissais pas. Puis elle m'a dit, Monsieur Dapozo, vous êtes une des réunions dans notre église il y a 2 ans, toute une semaine. Je dis, oui, je me rappelle. Elle m'a dit, j'étais là tous les soirs. Et je savais, il faut me convertir. L'appel a retenti dans mon cœur, mais j'ai refusé. J'ai dit, il faut bien que jeunesse se passe, j'aimerais bien un petit peu danser après tout, avant tout, je peux me convertir plus tard. Et je ne me suis pas converti, j'ai refusé l'appel de Dieu. Et maintenant j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir, je sais que je vais mourir. Vous pourriez m'aider, M. Dapozo? Je dis, non, je ne peux rien faire. Non. Mais il a dit dans la Bible, il peut t'aider. Puis j'ai dit, jeune fille, vous êtes d'accord maintenant de vous convertir et de confesser vos péchés? Elle a dit oui, puis elle l'a fait. Elle a confessé ses péchés, sa misère. Elle est venue à la croix, là. Puis après, je lui ai posé les mains à cette jeune fille. Et puis, un quart d'heure plus tard, elle se levait. Elle était complètement guérie, cette jeune fille. Voyez-vous, mais c'était le grand moment. Elle aurait pu, déjà 2 ans auparavant, réaliser cette paix, cette joie. 2 ans perdus. 2 ans, comme on dit dans le monde, fichus en l'air, pour le diable. Et quand on pense, comme Dieu est bon, comme Dieu répond à nos prières, quelle joie, tout dit qu'il est merveilleux. On peut le réaliser. Enfin, j'allais voir une petite famille, le matin de bonheur. Et puis le petit gamin qui allait à l'école. Puis c'est l'heure de l'école. Puis en mettant ses pantalons, la couture s'est défaite de son pantalon. Puis c'était justement l'heure, puis sa maman a dit, il faut que je te couse cette couture, elle n'est pas un deuxième pantalon pour cet enfant. Puis j'étais là, puis cet enfant pleurait, je vais arriver en retard. Puis il me dit comme ça, frère Dapozo, qui me dit, voulez-vous pas prier pour que j'arrive pas en retard? Il était déjà 8 heures, puis c'était à 8 heures l'école. J'ai dit, oui, ben je vais prier que tu n'arrives pas en retard. Puis c'était déjà 8 heures. Puis il arrivait, je pense, à 8h, à 8h20. Mais Seigneur, accorde-nous cette grâce que le petit Jean-Pierre n'arrive pas en retard. Il est parti vers 8h15 à l'école. À midi, je le vois lâcher ses gens, tout rayonnant. Je dis, comment ça s'est passé, Jean-Pierre? Il m'a dit, mais très bien. Le maître d'école, il a oublié la clé chez lui. Il a commencé à 8h30. C'est à 8h30. Comme Dieu est bon, voyez-vous, ces privilèges-là, c'est pourquoi on peut bien dire. Qu'est-ce que l'homme peut faire dans sa vie de plus stupide? La plus grande stupidité d'un homme. Refuser la grâce de Dieu. Refuser cet abri. Ce secours éternel. La plus grande stupidité qu'on peut faire. Que Dieu nous accorde la grâce, à travers tout, d'être des gens heureux. Il y avait là-bas en Italie de grandes persécutions du temps du fascisme contre les évangéliques. Mussolini et les autorités, il y avait un traité de latrin entre le Vatican et les fascistes contre les évangéliques d'Italie. Il y a toute une histoire, il y en a un livre comme ça épais, des persécutions contre les évangéliques du temps du fascisme. On ne s'imagine pas ce qui s'est passé. Et puis là, il y avait dans un village un homme qui s'est converti, le seul du village. Et puis il a commencé à rendre son témoignage. Puis un dimanche matin, la police fasciste est venue le chercher. Puis ils l'ont conduit au bas d'une rue qui conduisait à la gare. Puis là, lui ont dit, tu vas te rendre à la gare. Il a dû marcher. Et de chaque côté de la rue, il y a des gens avec des bâtons qui avaient reçu l'ordre de lui taper dessus. Pour recevoir le moindre coup, il s'est mis à courir, bien sûr. Mais tout le monde lui crachait dessus en même temps. C'est arrivé au haut de la côte, près de la gare, plein de crachats, plein de sang. Pas par les communistes, par les autres, s'il vous plaît. Et là, il y avait deux prêtres qui l'attendaient, qui se tordaient les côtes, comme on dit vulgairement. Ils avaient réussi à le mettre, comme on dit, en boîte, l'humilier, ce protestant. Mais lui a su pardonner. Il a su toujours être un homme heureux et joyeux malgré tout. Heureux et fier de souffrir pour Jésus-Christ. Et par lui, dans ce village, est née une église évangélique. À travers les années. Et dernièrement, ce frère, il est mort. Parti dans la gloire de Dieu. Il est mort comme on meurt chez nous. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il est parti dans la gloire, il était prêt, il était heureux. Et avant de mourir, dans sa chambre, il a fait venir toute sa famille, quelques frères. Puis il a dit, avant de mourir, j'aimerais inviter à venir, aller me les chercher, les deux prêtres des temps passés. Ils sont encore là, vivants, les cheveux blancs. Puis ils sont venus, ventre à terre, presque en se disant, sûrement qu'il va renier sa foi protestante, puis devenir catholique avant de mourir, il a peur. Puis ils sont venus, et puis il avait préparé deux chaises, une à sa gauche et l'autre à sa droite. Puis il a dit à ses deux prêtres, un à ma gauche et l'autre à ma droite. Et là, il a fait une prière, ce cher frère. Il a remercié Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour son salut, pour son pardon, plein de joie et du Saint-Esprit. Et pour terminer, il a dit, et maintenant, Seigneur, je te remercie que tu m'accordes la joie supplémentaire de mourir comme toi sur la croix de Golgotha entre deux brigands. Pardonne-leur. Puis il est mort. Et puis il est mort, à ce moment-là, quand il a dit, pardonne-leur, il est mort, il est parti dans la gloire de Dieu. Mais sa vie était une vie de joie, et Dieu l'a béni. La joie de l'Éternel sera votre force. Que Dieu nous donne cette grâce d'être prêt. Ton péché te trouvera, c'est pourquoi si on veut échapper, et qu'on veut devenir des gens heureux, et rester des gens heureux, venons à la source de la vie. C'est la croix de Golgotha, c'est Jésus qui pardonne tous les péchés, toutes les iniquités, et un jour, il sera peut-être trop tard. Il y a toujours un jour où c'est trop tard. Il y a un jeune homme là-bas en Suisse que j'avais donc conduit à des réunions et qui s'était presque converti. Parce qu'il y a des gens qui sont presque convertis. On n'est pas presque converti, on est converti ou bien on n'est pas converti. Celui qui n'est pas pour moi, il est contre moi, dit l'Éternel. Presque converti. Mais il a abandonné les plus nos réunions. Puis un jour, je le rencontre à Genève, ce jeune homme. Et je lui dis, alors André, tu viens plus aux réunions? Il m'a dit, tu vois, ça ne m'intéresse plus. T'es trop pessimiste, il me dit l'apôtre. Trop pessimiste. Tu vois, on a des joies aussi très belles. Par exemple, nous allons, cet après-midi, c'est un samedi, nous allons sur le Mont Blanc passer, faire une tournée sur le Mont Blanc. Nous sommes 10 camarades. Sur le Mont Blanc, toute une équipe. Je lui dis, alors Dieu m'a révélé que là, il y aura un grand malheur. Je dis, n'y va pas. Il t'arrivera un grand malheur. Il s'est mis à rire. Mais là devant moi, j'ai vu Roger Gérardier mourant sur le glacier, devant moi. Et j'ai supplié qu'il n'y aille pas. J'en transpirais. N'a rien voulu écouter. Ils sont partis sur le Mont Blanc. Ils sont même arrivés au sommet. Mais quand il s'agissait de descendre, est arrivée une grande tempête de neige inattendue. Ils cherchaient le refuge. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont plus trouvé ce refuge. Ils ont été séparés les uns des autres, deux ici, trois là, séparés par les rafales de neige. Et le lendemain, on a trouvé dans la soirée une équipe de secours. Roger Gérardier qui était transformé en bloc de glace et ses trois camarades avec lui. Ça a paru sur tous les journaux du monde. Roger Gérardier, est-il perdu? Est-il sauvé? Dieu seul le sait. Je sais qu'une chose, c'est qu'on a trouvé Roger Gérardier à genoux et les mains jointes. Donc il est encore venu parce qu'il avait une mère qui priait pour lui à la croix. Je crois qu'il est sauvé. Mais quelle perte, un beau jeune homme comme ça, qui aurait pu nous aider à évangéliser tant d'années, qui a dû partir dans la gloire de Dieu d'une façon tout à fait inattendue, et qu'il aurait pu être un homme qui puisse nous secourir dans notre travail pour l'Italie, pour la France, ailleurs, si jeune à 20 ans. Oh, que Dieu nous accorde la grâce de dire oui à son appel encore ce soir. Et chers amis, prions les uns pour les autres, vous ici, nous là-bas, on a besoin les uns des autres. Et que Dieu vous bénisse dans votre activité ici. Faites aussi tant que vous pouvez des adeptes pour le Seigneur Jésus. Tâchez d'inviter les gens. Voyez-vous, chez moi, j'avais un voisin que j'ai invité pendant 16 ans pour venir à la Réunion, 16 années. Il n'est jamais venu. Jamais. Et quand je l'ai vu là-bas, la dernière fois, il était en train de tailler ses arbres, mon voisin. Puis il s'est moqué de moi. Je partais en Allemagne. Puis il s'est moqué de moi. Et puis on s'est dit au revoir. Puis quand je suis revenu 3 jours plus tard, ma compagne me dit, tu sais, M. Brönnimann, notre voisin, il est déjà au cimetière. Il avait résisté pendant 16 années. Il n'est jamais venu une fois écouter à la réunion. Oh, que Dieu fasse de nous des gens qui soient toujours à l'œuvre. Et quand je pense à ma chère maman, que j'ai pu assister avant qu'elle meure le jour auparavant, ma chère maman qui a travaillé à Chauny, pour le royaume de Dieu, à Paris, et qui a reçu tellement d'enfants malheureux dans sa maison, des enfants qu'elle a lavés, elle a enlevé leur vermine, des mamans, des parents qui n'avaient pas de logement, elle les a reçus chez elle, des milliers en 40 ans, chers amis, sans prêcher beaucoup l'évangile, par sa vie seulement. Et avant de partir dans la gloire de Dieu, on l'avait visité avec Freddy quelque temps auparavant, elle était tellement joyeuse à 84 ans, pleine de vie. Et quand j'ai vu qu'elle partait dans la gloire de Dieu, qu'elle n'est plus pour longtemps à vivre sur cette terre, j'ai posé cette question, ma chère maman, comment vas-tu? Elle m'a dit, oh, tout va bien, je m'en vais dans la gloire de Dieu, je suis heureuse. Et quand j'ai vu ma chère maman dans ce cercueil le jour après, mes frères étaient venus de Paris, ma chère maman dans ce cercueil, j'ai dit, oh, ma chère maman, combien tu étais bonne dans ta vie? Combien tu as prié pour tes 5 garçons, combien tu as lutté pour le Seigneur, pour la vie et l'âme de tes enfants, combien tu as lutté pour le Seigneur, pour aider les âmes autour de toi. Tu peux récolter ce que tu as semé avec larmes dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est bon d'être prêt. Et je me trouvais un jour dans un restaurant en Suisse, à midi, avec un petit fardeau sur le cœur, le fardeau des camps d'enfants. Je savais très bien, la semaine prochaine, il faut que je paye pour les camps d'enfants en Italie, 1500 francs suisses. Je ne les possédais pas. Oui, j'avais 20 francs dans la caisse. Et là, dans ce restaurant, je pensais, ah, si j'avais comme ça un bon comité qui m'entoure. Mais je n'ai pas de comité. Et je me disais, oh, si j'avais comme ça une bonne assemblée, une bonne église, qui nous entoure. Mais je n'ai pas d'église qui m'entoure. Les gens ne s'occupent pas de l'Italie, dans les églises occupent des missions ailleurs. Et tout à coup, j'ai pensé, ah, si je connaissais quelqu'un, un Américain. Mais je ne connais pas l'Américain. Ces gens qui peuvent des fois aider les Américains. Et tout à coup, le Seigneur m'a révélé ceci. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Il n'est pas dit confie-toi en ton comité. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Point final. Et là, dans ce restaurant où il y a beaucoup de monde, j'ai pensé, ben, je vais faire la prière une fois haute voix dans un restaurant. On va voir comment que ça va faire. Ben oui, risquons quelque chose. Il faut se faire voir, les chrétiens. C'est pas difficile. On fait comme ça, à table, puis on dit à haute voix, Seigneur, je te remercie pour cette bonne nourriture, tout est bien, fais à toi sur la gloire. Amen. À haute voix. Et quand on a dit Amen, on regarde entre les doigts. Et qu'est-ce qu'on voit? Quantité de protestants, de catholiques assis à ces tables, tous baptisés, confirmés, oui. Ils sont baptisés. Ils sont tous dans des registres d'église, inscrits, mais pas dans celui du ciel. Différence. Et ces protestants et catholiques assis à ces tables nous regardent d'un air étrange. Il a prié, mais c'est épouvantable. Il n'est pas normal, cet homme-là. Il prie. On peut vivre dans le péché, ça ne fait rien de vivre dans le péché, tromper, rouler les gens, ça ne fait rien. Mais prier une fois, cet homme, sa place est dans l'asile d'aliénés. Il a prié, figurez-vous. Mais nos protestants, nos catholiques. Mais tout à coup, un monsieur s'avance vers moi, un monsieur inconnu, et me tend la main fraternelle, et me dit, « Êtes-vous un chrétien ?» Je dis, « Oui. » Puis il me dit ceci, « Êtes-vous un enfant de Dieu ?» Oh, une différence, ça. Tout le monde est chrétien, mais aujourd'hui, il n'y a pas de païens, il n'y a plus que des chrétiens. Oui. Alors, vous êtes un enfant de Dieu ? Je dis, « Oui, par la grâce de Dieu, depuis 43 ans. » Il me dit, « Quelle joie, moi aussi. » Et puis il me dit comme ça, « Je suis américain. » Et cet homme prend place à ma table, m'a payé mon dîner. On a parlé de la mission, de l'évangélisation, il m'a posé des questions. Je n'ai pas parlé de mes besoins financiers, pas un mot. Et en me quittant, cet homme me remet une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a 2000 francs suisses, il y avait 500 francs de trop. Voilà comme Dieu, encore de nos jours, exauce ses enfants. Dieu vit, Dieu agit dans les cœurs. Que ce soit pour nous un encouragement à nous confier en lui. Ceux qui se confient en lui ne sont point confus. Ils sont comme la marée du Seigneur qui demeure éternellement. Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est encore davantage, il est le bon berger, notre consolateur. Et puis, il est le triomphateur, il nous accorde même sa victoire. Quand on lit l'enseignement des apôtres, ils ont enseigné les apôtres, premièrement, la justification. Christ est la fin de la loi. Celui qui croit en lui, il est juste. Pas à moitié. Il est juste. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est accordé encore d'autres choses en Jésus. La sanctification. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Sanctifiés une fois pour toutes. Quelle grâce! Et puis, j'ai parlé de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et de cette victoire, en Jésus, j'aimerais dire quelque chose au point de vue pratique, évangélique, ce soir, avec l'aide de Dieu. Et j'aimerais lire un court passage de la Bible dans l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 11. Apocalypse 12, 11, le dernier livre de la Bible du Nouveau Testament. Là, il est dit très clairement, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà l'enseignement de la parole de Dieu. Évidemment que la victoire est un don de Dieu, c'est une grâce. Par nos propres efforts, on ne peut pas vaincre. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu notre pays de Suisse. Nous avons quelques lacs là en Suisse. Il y en a un qui s'appelle le lac de Thun. Et puis au bord de ce lac de Thun, il y a une petite ville qui s'appelle Spitz. Spitz. Et un soir, quatre pauvres buveurs d'alcool se trouvaient à Spitz. C'était déjà passablement tard. Puis il n'y a plus de train pour rentrer à la maison, dans leur ville. Alors ils ont pensé, puisqu'il y a un lac, on va y aller en bateau. Il faut que ça serve à quelque chose, les bateaux. Puis ils sont partis en bateau, depuis Spitz contre Thun. Puis ils ont ramé. Ils en ont mis un coup. Ils ramaient, puis ils transpiraient. Finalement, au bout d'un certain temps, ils ont dit, où est-ce qu'on est? Il y a longtemps qu'on doit être à Thun, arrivé. Puis ils ont regardé, puis ils étaient encore à Spitz. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont oublié de détacher le bateau. Il s'agissait que deux choses à faire, enlever la chaîne et le bateau part en avant. C'est une image de ceux qui veulent plaire à Dieu par leurs propres efforts et qui cherchent à devenir justes par des bonnes œuvres, qui veulent arriver au ciel tout seul, sans la grâce de Dieu. Ils rament. On rame. Et puis on fait faillite, jour après jour. On n'a pas une vie de victoire. Ainsi, nous avons ici vu que on l'a vaincu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, pas par nos propres efforts. C'est lui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Et c'est une grâce, mais il y a autre chose. Et par la parole de leur témoignage. Donc maintenant, pas seulement grâce, devoir, on a un devoir envers les perdus, vous et moi. On a tous des devoirs. Puis ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Sacrifice, dans ce verset. On a tellement d'occasions, n'est-ce pas, d'apporter son témoignage. Je me trouvais dans un train, il n'y a pas si longtemps que ça, en Suisse, et vis-à-vis de moi, il y avait une jeune fille convertie, la Jeannette. Elle s'était convertie une fois. Puis elle était assise en face de moi, très triste. Ces chrétiens tristes, n'est-ce pas? Évidemment, ça ne fait pas un bon exemple, un chrétien triste. Oh, il y a de la tristesse chez les chrétiens, que ce soit pour notre professeur qui est parti, c'est aussi une souffrance. Quand on est séparé, n'est-ce pas, il y a une souffrance de la chair. Je pense que l'apôtre Paul, quand il a été battu, il a parié aux éclats. Il n'est pas dirigé sans cesse dans la Bible. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, même avec les larmes. On peut se réjouir avec les larmes. Eh bien, justement, cette jeune fille était triste. Puis je lui dis, alors Jeannette, comment que ça va? Oh, ben ça va bien. Ah oui? Ah, ça va bien. J'ai dit, Jeannette, là où tu travailles, là, dans ton bureau, est-ce qu'ils savent, tes collègues, que tu es un enfant de Dieu? Ah non, non, non. Ah non, ils ne savent pas ça. Ah non. Non, non, non. Je dis, mais alors, tu n'as jamais parlé de Jésus-Christ, là où tu travailles? Ah non, non. Il m'a dit, vous savez, moi, je paye mes émissions de radio tous les mois, régulièrement. Je dis, mais Jeannette, je n'ai pas lu parler de la radio dans la Bible jusqu'à présent, des émissions de radio. Mais il est dit dans la Bible, celui qui croit du cœur et qui confesse de la bouche, il sera sauvé. Ça va ensemble, la confession du nom de Jésus. Celui qui n'est pas pour moi, il est contre moi dans la Bible. Jeannette, et t'as jamais parlé de Jésus là où tu travailles? Il y a combien de temps que tu es là dans ce bureau? Ben, il y a 3 ans. Et t'as jamais rien dit de Jésus? Non. Jeannette, si tu continues à avoir honte de Jésus-Christ là où tu travailles, tu vas t'écrouler. Tout à fait au bas de l'échelle. Jeannette ne s'est pas laissée exhorter. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, Jeannette est mariée. Ils ont un beau logement. Ah oui. Un beau logement. Des beaux meubles. Frigidaire. Rien ne manque. La télé, tout est là. Et mais seulement, il y a tout. Puis il manque le principal, il manque la paix de Dieu dans cette maison. Et prochainement, ils vont se divorcer. Voilà, il est dit, sois fidèle jusqu'à la fin. Il n'est pas dit, sois fidèle jusqu'au commencement. Jusqu'à la fin, il fait une différence, la fin puis le commencement. Et si Jeannette avait pris position pour son sauveur, ça ne serait jamais arrivé dans sa vie, cette chose-là. Elle a eu peur de rendre son témoignage. Le premier témoin de la Bible, dans le Nouveau Testament, comment qu'il s'appelait? Il s'appelait, comment vous dites? Oui, Étienne. Mais j'entends encore avant. Non, il s'appelle l'autre. C'était le brigand sur la croix. Il n'avait pas de nom. Il s'appelait l'autre dans la Bible. Il y a marqué l'autre brigand. Eh bien, c'est le premier témoin de Jésus-Christ, celui-là, sur la croix, dans sa mort. Personne n'assistait le Seigneur encore que lui, l'autre. Et cet homme a été sauvé. Ce témoignage qui était agréable à Dieu. Il a reçu sur la croix de Golgotha l'autre. C'est aussi une bonne leçon pour nous, l'humilité. On fait des fois tellement de tapage avec des noms, quelquefois, vous ne trouvez pas? Oui, toutes sortes de tapages. Que Dieu nous garde dans l'humilité, l'autre. Et alors cette jeune fille, maintenant elle a fait faillite, j'en ai connu une autre jeune fille. Alors cette jeune fille-là, elle allait travailler tous les matins avec le train. Ah. Et puis dans le train, elle lisait sa Bible, Martha. Elle lisait sa Bible dans le train, malgré les colibés. Il ne manquait pas, il pleuvait les colibés dans ce train, sur cette Martha. Mais Martha resta fidèle. Tous les matins, elle lisait sa Bible, ne s'occupait pas des colibés, des moqueries. Et dans ce même wagon, tous les matins, à la même place, il y avait un jeune homme. Et toutes ces jeunes filles voulaient plaire à ce jeune homme. C'est un tellement beau jeune homme. Hein. Ça donnerait comme ça un bon mari ici, là. Hein. Alors, toutes ces jeunes filles, yeux de ce jeune homme, tâchaient de se faire voir. Et qu'on les aperçoive. Mais ce jeune homme, lui aussi, il observait. Il observait quoi? Pas les autres qui se moquaient. Il observait Martha qui lisait sa Bible. Puis il se disait, combien de temps que ça va durer? Est-ce qu'elle va tenir le coup avec cette Bible? Puis ça a duré pendant 2 ans. Tous les matins, elle lisait sa Bible. Et au bout de 2 ans, ce jeune homme que je connais, il a dit à Martha, mais mademoiselle, moi, ça me donne à réfléchir, votre Bible-là. Comment vous pouvez tenir le coup comme ça, des gens qui se moquent de vous? Puis elle lui a dit, ben écoutez, monsieur, si vous voulez savoir comment ça se fait, venez avec moi ce soir, je vous amène à une place. Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai de la force de dire ma parole de Dieu. Où je la puise, cette force. Et puis, ils se sont donné rendez-vous, puis elle l'a amené à la réunion. Puis, il s'est converti le même soir. Puis maintenant, si vous voulez voir le plus beau couple de toute la Suisse, le plus heureux, c'est ces deux-là. Oui. Eh bien, il s'agissait de rendre témoignage par la parole de leur témoignage. On a tellement d'occasions. Un bon mot, un mot plein d'amour, une consolation, un regard peut-être seulement, quelquefois, ça fait tellement bien. Tellement. Quand je pense à mon cher papa, mon papa est entrepreneur. C'est entrepreneur à Chauny, à Compiègne, on est entrepreneur à Paris, en dernier lieu à Paris, artisan. Et puis, il était très courageux pour le Seigneur Jésus. Et si vous allez à Paris, vous voyez en face de la Tour Eiffel un grand palais qui s'appelle le Palais Chaillot. Ce Palais Chaillot, il a été construit en 36. En 37, il doit avoir l'exposition internationale, il fallait que ce Palais Chaillot soit terminé. Mais nos ouvriers parisiens faisaient la grève. Oui, c'était... Et puis il fallait avancer ce travail, puis il y avait la grève, c'était très difficile. Alors, arriva chez nous une délégation de Paris, des travaux, pour demander à mon père et à mes frères si on n'irait pas donner un petit coup de main pour avancer ce bel travail. Il y avait quelques centaines d'ouvriers. Puis on y est allé. Notre équipe d'Apozzo, 6 hommes, 5 frangins, plus de papa. On avait un cœur d'homme, on chante à 4 voix chez nous. Et mon père, une voix admirable, mon père, une voix. On l'avait demandé pour être premier ténor à l'opéra de Berne à son temps, il était jeune, une voix. Alors, on est allé travailler au palais de Chaillot. Première minute sur l'échafaudage. Mon père a dit, garçon, on chante un cantique. Pas la Marseillaise, hein, ni la Madeleine. Un cantique de Jésus-Christ. Est-ce qu'on ose sur un chantier chanter un cantique de Jésus-Christ, justement là, c'est justement là le meilleur point pour chanter. Et nous nous mîmes à chanter, mais pas seulement chanter, à crier. À quatre voix, ça résonnait dans ce chantier. Alors c'était la révolution, qu'est-ce qui se passe? Ils chantent la messe par là-haut. Et puis, enfin, le chef de travaux est venu voir, me dit, monsieur, ici on n'ose pas comme ça chanter. Mon père a répondu, monsieur, si on ne peut pas chanter, on s'en va. Non, 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 restez, j'ai besoin de nous. Et nous restâmes. Mais c'est formidable, c'est merveilleux, c'est admirable. Quand Villebert, le soir, a pu contrôler les travaux, parce que les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui doivent travailler, ils osent travailler, les chrétiens. Il dit, servez l'Éternel avec joie dans le travail, c'est un témoignage. La joie dans le travail, quand on ne doit pas travailler, que c'est comme ça dure, c'est un témoignage. Ils sont venus voir un peu les travaux, puis ils ont pu se rendre compte que l'équipe d'Apozzo, tout en chantant des cantiques, ils avaient fait 2 fois plus de travail que 5, que 6 autres qui ne chantaient pas. Et alors le chef nous a dit, « Monsieur, ça va bien, chanter, travailler, je suis content. » Et nous chantâmes tous les jours. C'était un beau témoignage sur les chantiers de Paris. Et partout on a fait ça, on a passé chez nous. Partout dans les chantiers, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, où on a été travailler, ben, on a chanté des cantiques partout, on a rendu du témoignage. aussi bien qu'on le pouvait, avec l'aide de Dieu. Et Dieu a béni mon père. Il y a des âmes qui sont converties sur les chantiers. J'ai encore vu ce matin quelqu'un à Chauny qui s'était converti par notre témoignage sur les chantiers. C'est tellement beau. Oh, que Dieu nous donne le courage de rendre notre témoignage. Si vous regardez la carte géographie, une ville qui s'appelle Crotone. Crotone. Et là, à Crotone, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'assemblée évangélique, il n'y avait rien. Et évidemment, un jour, un jeune pasteur, puis moi, on était là-bas il y a très très longtemps de ça, évangéliser cette ville de Crotone. Avec nos guitares, le piano des pauvres sur le dos, et puis la valise et la dynamite, la munition du ciel dedans, les petits testaments et tout, on est parti. Et on a chanté des cantiques dans la ville de Crotone, dans les rues, dans les cafés. Et puis les gens ne nous ont pas trop bien reçus là. On nous a bombardés, pas de meringue ou bien de pâtisserie, non, avec des tomates. On avait plein de sauces de tomates. Et même des œufs, pas des tout frais. On ressemblait, mais c'était épouvantable. Et ils nous ont même dit, demain, vous ne serez plus en vie. Et on est rentré le soir chez nous, c'est un hôtel 17e classe de Crotone. On avait loué une petite chambre là-dedans. Puis on était dans cette entrée, puis on ne trouvait pas pour faire la lumière, l'interrupteur. On le cherchait partout, il était là, mais on ne le trouvait plus. Puis on avait presque la frousse. Il y en a peut-être un avec un couteau par là, on ne sait jamais. Ce serait plus en vie. Finalement, on a dû taper. Puis là, il arriva l'hôtelier en pyjama qui nous insultait. C'était près de minuit. Qu'est-ce qu'on fait pour du potin, du bruit là? Et évidemment, ce qu'il a vu tout de suite, c'était notre sauce tomate. C'était bien rangé par le Seigneur. Et il a voulu avoir des explications. Qu'est-ce que ça représentait ça, cette sauce tomate, tout ce commerce? Et on lui a raconté, à 2h du matin, on est encore ensemble, qu'on causait, dans l'escalier. Oui. Puis à 2h du matin, elle est partie réveiller sa femme, la Maria qui dormait. Puis elle dit, Maria, viens écouter ce qu'ils disent ces gens de la religion là. Puis la Maria, elle est aussi venue. Puis à 5h du matin, on est encore dans l'escalier, au bas, mais à genoux. Et ils sont convertis tous les deux. Les premiers convertis de Crotone. Oui. Oui, un hôtelier fait sa femme, un bistrot. On attendait d'autres choses, nous, des gens un petit peu, hein, qui nous écoutent, pas seulement des bistrotiers. On a dit, maintenant, on va dans la ville, vous allez voir comment ils vont se convertir avec nos guitares. C'est tout le contraire. Mais il s'est converti et sa femme, ils ont abandonné leur bistrot, ils ont commencé un commerce de légumes et de fruits. Et aujourd'hui, si vous allez à Crotone, il y a quelques années de ça, mais il y a une belle église qui compte plus de 600 membres, tous enfants de Dieu à Crotone. J'ai reçu justement l'autre jour une photographie d'un service de baptême, il y en a 65. 69, ça se peut bien. Oui. Eh bien, voyez-vous, ça a débuté tellement petitement, mais c'est Dieu qui fait ces choses-là, comme Dieu est bon. Lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a beaucoup de révoltes chez les chrétiens de nos jours, de la révolte contre Dieu. On n'est plus d'accord avec le bon Dieu, parce qu'il ne veut pas faire comme on veut nous-mêmes. Alors on se révolte contre Dieu. La révolte contre Dieu, c'est terrible. Il y a quelques années, il y a deux jeunes gens qui se sont mariés, des chrétiens, des enfants de Dieu, ils se sont mariés. Au mariage chrétien, c'est beau un mariage chrétien. Le grand désir de ces deux jeunes cœurs d'avoir 3 enfants. T'as entendu, Seigneur? 3? 3? 2 garçons et une fille. 1 an a passé, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Alors on s'est révolté contre Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste, on n'a pas d'enfant. Et nos enfants deviendraient des missionnaires. Des missionnaires, ils deviendraient nos enfants. Et les incrédules, ils ont des enfants, puis nous pas, c'est pas juste. Dieu n'est pas juste, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est révolté contre Dieu. On n'est plus venu au culte, à la réunion, c'était fini. On s'est distancé des enfants de Dieu. Pendant 3 ans. 3 ans, ça a duré. Au bout de 3 ans, quelque chose a frappé chez ces deux cœurs. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Heureusement qu'il est là. Il vient frapper de temps en temps, même chez vous, puis chez moi. Pas seulement la conscience, ça s'appelle le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, il les a convaincus qu'ils faisaient mal. Puis ils ont écouté ce Saint-Esprit, ces deux jeunes gens, jeunes mariés. Ils ont écouté cette voix. Ils sont venus nous trouver, puis ils sont humiliés pour leur révolte contre Dieu. Ils sont humiliés,
J'ai demandé pardon à Dieu avec larmes. Et puis je les ai encouragés. Je leur ai dit, il faut être d'accord avec Dieu comme ça ou comme Dieu veut. Avec ou sans enfant, comme Dieu veut. Dieu sait bien pourquoi. Puis ils ont été d'accord. Un an plus tard, est né un petit Pierre. Oh, quelle joie! Un petit Pierre qui tombe dans ce foyer. Oui, quelle joie, le petit Pierre. Vous devez vous imaginer comment on a pris soin de ce petit Pierre dans cette maison. Il ne manquait rien. Ah non, ça sera un missionnaire pour les Indes, qu'on a dit. Mais quelques mois plus tard, on a dû appeler le médecin qui a déclaré cet enfant ne pourra jamais marcher dans sa vie. Jamais faire un pas. Vous devez vous imaginer ce découragement chez les deux jeunes mariés. Cet enfant, on a supporté pendant quelques temps, puis après on n'a plus supporté, puis on s'est révolté contre Dieu une deuxième fois. C'est pas juste! On a des enfants qui ne sont pas en santé, les incrédules ont des enfants en santé, c'est pas juste! Et de nouveau, on a déserté les réunions, on n'est plus venu sur la parole de Dieu. C'est pas juste. 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans! Et Dieu, dans sa grande miséricorde, par son Saint-Esprit, a frappé à ses cœurs une deuxième fois. Ils ont compris qu'ils avaient mal fait, ils sont venus nous trouver pour s'humilier. Puis je leur ai dit, il faut être d'accord comme ça, comme il est. Et puis, on peut aussi croire que Dieu fait des miracles de nos jours, mais il faut être d'accord avec lui. Ils étaient d'accord, ils sont humiliés avec larmes. Et quelques temps plus tard, ce papa du petit Pierre rentrait à la maison le soir avec son vélo à la main. Et de loin, il a aperçu sur la terrasse son petit Pierre, sur la terrasse, de 3 ans. Et ce petit Pierre était assis sur une natte, une couverture. Et ce petit Pierre essayait, à la force de ses poignets, en se tenant une barre, balustrade, de se tenir sur ses jambes et ne pouvait pas. Ses jambes ne le portaient pas, ce petit Pierre. Et ce papa est venu sur cette terrasse tout triste, son petit Pierre qui ne pourra jamais marcher. Et ce petit Pierre a vu son papa, il l'a regardé tout joyeux, son papa qui rentre à la maison le soir, quelle joie, le papa qui rentre. Et le papa fait ceci, le papa, qu'est-ce qu'il a fait le papa? Il a dit ceci, petit Pierre, viens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le petit Pierre est parti à la rencontre de son papa à pied pour la première fois. Il était guéri. Ça s'est passé en Suisse, pas en Amérique, ça. En Suisse aussi, il y a des miracles qui se passent beaucoup dans le silence, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais Dieu fait des miracles encore de nos jours, comme Dieu veut, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, on a des promesses de Dieu pour nos familles. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est tellement beau quand on peut venir à Jésus-Christ, qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, et se confier en lui. Et venir à lui. Vous savez, il est bon de se donner à Dieu quand on est jeune, aussi jeune que possible. L'année passée, j'ai fêté 40 ans avec Jésus-Christ. Mais l'anniversaire, ça, 40 ans avec Jésus-Christ. Et ça fut beau. Une vie n'est merveilleuse qu'avec Jésus-Christ, j'en donne la preuve. J'étais à Paris 20 ans, on peut le garder du péché, même à Paris. J'ai travaillé dans bien des états d'Europe. J'aime mon métier. Mais j'ai réalisé comme c'est beau d'être dans la main de Dieu pendant 40 ans. Quand on a 15 ans, on aimerait bien avoir 18 ans. Pourquoi? Oh, c'est pas intéressant l'apprentissage à dessous de l'heure. Hein? Ouh, yo. Terrible! 3 ans, vivement 18 ans qu'on se dit, alors ça sera beau, on gagnera davantage d'argent, un peu de patience, bossons. Mais quand on a 18 ans, on aimerait bien avoir 20 ans. Pourquoi? Là, on a un monsieur, une demoiselle, faut plus oublier à la maison, non, fini l'esclavage. 20 ans, ça sera beau. On n'est pas heureux à 20 ans sans Jésus-Christ, alors on aimerait bien avoir 25 ans. Pourquoi? Pour se marier. Ah oui, mais on va se marier, on va acheter beau meuble du Pfister. Je ne sais pas comment, il y a même à Lausanne ces meubles. Et puis alors, on est plus beaux que Jean, puis nos voisins, ils vont faire des yeux quand ils verront ça. C'est plus moderne qu'eux. Maintenant, on va économiser, puis ce sera beau. Puis à 25 ans, malgré le mariage, on n'est pas heureux sans Jésus-Christ. Alors, on voulait bien avoir 30 ans, d'un seul coup. Pourquoi? Pour la petite Fiat. Ou bien la petite VV, on fera des beaux voyages jusqu'en Espagne. Alors là, ça sera bon, économisons. Puis quand on a 30 ans, on aimerait bien avoir 15 ans. Retour à 15 ans, Pourquoi ? Pour mieux recommencer. C'est pourquoi il est bon de commencer tout jeune avec Jésus-Christ, aussi jeune que possible. On peut vraiment réaliser ce que c'est beau d'être à son service. Que Dieu nous a accordé cette grâce à tous de réaliser en lui la rémission des péchés et la vie éternelle qu'il accorde à tous ceux qui viennent à lui. Amen.